Soleil d'un jour sur Radio Lac, c'est tous les dimanches entre 12h et 13h avec Maurice Efti. Maurice, bonjour.
Bonjour Frédéric. Est-ce que vous connaissez Pana, le diminutif de Pana Rachel? Non.
Non.
On sera au bord du lac Atitlan alors.
La semaine dernière, nous étions pas très loin du lac Atitlan, hein. Nous étions à Solila.
Oui, à Solola. On est resté un peu sur le balcon et puis on va descendre maintenant par quelques lacets jusqu'à Pana Rachel. Je disais Pana tout à l'heure, c'est le diminutif d'une station climatique. Ça n'est pas grand, ça fait 3500 habitants grosso modo. Il y a beaucoup de huttes et de petites maisons à l'extérieur, mais on est quand même coincé parce que c'est au bord du lac, c'est vrai, dans un site tout à fait admirable. Il y a une toute petite rivière qui arrive carrément dans le lac avec un cadre donc lacustre. Il y a un côté forestier aussi. Et puis, il y a ces montagnes, tout à la fois, qui se trouvent à l'arrière, une véritable falaise. Alors, c'est un endroit qui a été fondé par les franciscains. Ils sont venus ici faire un couvent, juste à l'endroit où Pedro de Alvarado, le fameux capitaine de Cortés qui a envahi le Guatemala, est arrivé avec ses alliés Cachiquel. C'est une tribu qui existe encore dans cette région du lac, et il a défié les troupes de tous les Indiens qui vivaient en face, c'est-à-dire les Tsuturils. Alors ça s'est passé en 1524, c'est la grande année de l'invasion du Guatemala, et l'église paroissiale a été fondée juste après, en 1560, et des poussières, et elle a été reconstruite d'ailleurs plusieurs fois. Je dirais que la dernière construction, c'est 1962, après un des nombreux tremblements de terre qui secouent le Guatemala. Et c'est, ce qui a changé ce vieux village de pêcheurs, c'est bien sûr l'intrusion, parce que ça peut pas s'appeler autrement du tourisme, et ça a bouleversé toute la vie de ces anciens habitants. Je me rappelle que j'ai mis pratiquement 3 ans avant de retrouver un huipil, c'est-à-dire la blouse des femmes d'origine de Pana Rachel. J'ai cherché si longtemps parce que je voulais pas quelque chose de contemporain, il en existe encore pour les fêtes, mais je voulais retrouver ce rouge tellement particulier qui est naturel, avec cette toute petite ligne bleue qui se trouve à l'intérieur, un bleu mais vraiment cobalt. Alors c'est d'une sobriété extraordinaire avec un tout petit rien de brun. Alors ces trois couleurs sont assez dissonantes comme ça, mais ça a une allure folle. C'est pour vous dire que ça a complètement disparu. On ne voit plus une indienne qui porte encore le costume de Pana Rachel. Donc le bouleversement a été radical, c'est vrai. Et avant, ça donnait uniquement aux travaux agricoles. Et maintenant, tout a changé dans la mesure où les débouchés, c'est plutôt les touristes en soi. Et en l'occurrence, le marché local permet plus d'offrir des objets folkloriques ou des tissus. Il y a un côté très haut en couleur, toutes les rues même de Pana Rachel. Vous savez, on tire quelques bambous comme ça, et puis la journée, on met 300-400 tissus, on peut même vous trouver votre couvre-lit en patchwork, on peut vous trouver un petit gilet, on peut vous trouver un petit sac guatémaltèque. On voit ça chez nous aussi, hein, c'est assez à la mode, mais ça se produit maintenant par milliers, donc c'est devenu un immense supermarché folklorique avec beaucoup d'objets de qualité. Hein. Il n'y a rien de dénigrant à le dire, mais au contraire, ça a complètement changé l'allure. Je parlais de la dernière fois, on a parlé de galeries, on a parlé de restaurants. Vous pouvez manger aussi bien français qu'anglais, qu'américain. Enfin, chacun a monté son petit coin de Pana avec justement cet arrière-goût de 68 heures qui s'installe. Il y a un peu de catogan, il y a un peu de roblong. On traîne dans les rues le soir, on s'assoit à une terrasse. On va dans le petit bistrot sympa où il y a de la musique folklorique, où on peut même danser. Je me rappelle de bals populaires, par exemple. C'est assez fabuleux, les bals populaires. Quand vous avez la grande fête de Pana Rachel, par exemple, vous avez des carousels, vous avez des pétards, vous avez des processions, enfin tout ce qu'on attend dans une fête guatémaltèque. Et puis, il y a une grande salle qui ressemble à un hangar, un véritable hangar avec plein de béton, plein de tôles ondulées. C'est magnifique. Alors, on fait payer un prix exorbitant pour les gens du lieu à l'entrée. Alors, toutes les jeunes femmes, à partir de 15 ans, lorsqu'on a fait, je pense, son entrée dans la vie sociale, s'habillent avec, il y a un côté organdi comme ça, robe à volant, enfin complètement début du siècle. Et ces jeunes filles ont souvent économisé, leurs parents leur offre l'entrée. Et puis alors, il y a des chaises tout autour de la salle. C'est un immense hangar avec un orchestre tonitruant, tout à fait contemporain, genre salsa, boum boum, crac crac. Et puis, vous avez des centaines de chaises qui sont alignées les unes à côté des autres, tout à fait contre les parois du hangar. Ça, c'est fabuleux.
Donc parce les jeunes filles sont assises.
Elles sont assises, elles ne bronchent pas une oreille. Et puis, les hommes ont de la peine à rentrer parce qu'ils doivent payer, et les filles payent moins. Il y a une différence de prix à l'entrée. Et puis,
ils ont le choix.
Oui, et puis il y a toujours les parents qui restent debout dans un coin. Et il faut voir, c'est quelque chose d'absolument absolument phénoménal. Danser dans ces endroits-là, au bout de quelques heures, vers 2h du matin, ça finit par se remplir, mais je dirais qu'il y a autant de monde dehors qui attendent et qui ne peuvent pas rentrer, pour des raisons tout simplement financières, que l'élite, à quelque part, qui se trouve à l'intérieur, ou ceux qui ont réussi à trouver le petit truc pour rentrer, justement. Alors, on peut éventuellement aller jusqu'au luxe d'une bouteille d'alcool avec quelques refrescos, enfin quelques rafraîchissements à bulles brun ou blanc, enfin c'est à votre choix, avec un petit rien de 40 degrés. Et puis l'ambiance monte quand même doucement, comme ça vers les 3 heures du matin. Les parents s'amusent finalement autant que leur fille et leur fils. Et puis l'orchestre est pas mal non plus, hein. C'est-à-dire quand l'ambiance y est, elle y est. Alors bien sûr, avec de la tôle sur le toit, ça résonne dans tout le hameau. 3500 habitants sont tout à fait à l'écoute et à l'heure du bal. Bon, c'est le genre de phénomène qui correspond tout à fait. C'est pour vous montrer que même si c'est très touristique, en même temps, ça a gardé certains charmes qui correspondent bien au pays.
L'architecture a changé aussi ?
Bien sûr, parce qu'on peut, trouver des boutiques qui ont l'air tout à fait contemporain. Et puis, non seulement l'air, mais aussi la façon de vous répondre. Parce que ça peut être une Américaine qui s'est établie là et qui va utiliser, pourquoi pas, du textile indigène pour créer la chemise bien coupée. Il y a même des griffes, hein, j'entends par là, obligatoirement, ça se développe. Et puis, il faut dire qu'on a des goûts particuliers. On n'est pas tous collectionneurs de textiles anciens comme moi. Et au contraire, on aimerait mettre quelque chose... également en Europe au retour, même si les gilets sont devenus de plus en plus folkloriques et colorés, il y a des gens qui sont là pour inventer une sorte de mode folklorique, incontestablement. En l'occurrence, on le remarque aussi dans la restauration, qui elle s'est vraiment diversifiée. Mais si je parle comme ça de ce village, eh bien c'est un peu pour vous montrer que tous ces hôtels qui sont les seuls pratiquement du lac, maintenant à Santiago en face, on commence à avoir quelques petites galeries. Enfin là, je vous parlerai peut-être de l'évolution de ce village qui est encore plus fascinante, parce que Panarachel, je suis déjà arrivé trop tard. C'était déjà l'après 68, donc les choses étaient déjà jouées, si vous voulez. On campait, on ouvrait une petite pension, et tout juste on plantait pas son hamac, et au bout de quelques mois, on avait un établissement. Donc c'est sont des villages qui sont répartis en quadrillage. Hein. Donc obligatoirement, vous avez des jardins, de la végétation, une petite hutte au fond, un chalet suisse. Ben oui, ça se trouve aussi là-bas. Hein. Alors, en dehors de ça, il y a le lac qui reste quand même l'attraction majeure. Alors, on avait parlé la dernière fois, c'est un lac qui est très profond, il fait 450 mètres de profondeur.
Vous voulez prendre le bateau, hein, le dimanche dernier.
Oui, justement, il y a 130 km². Si je prends la route elle-même, depuis le point de jonction de la Panaméricaine, vous étiez à peu près à 17 km de Panarachel. Si vous continuez sur la route, parce qu'il y en a une quand même, vous pouvez arriver jusqu'à San Lucas Toliman, qui se trouve déjà de l'autre côté du lac. Si vous poussez un peu plus loin sur la piste, qui s'est amélioré, vous arrivez à Santiago Atitlan, qui est exactement en face de vous, c'est-à-dire vous êtes au nord, vous regardez le sud, et puis vous suivez exactement le courant du vous rappelez du Chocomil, ce vent qui domine comme ça à certaines heures du jour et qui glisse du nord au sud et qui balaye tout le lac. Et puis vous avez ensuite San Pedro de la Laguna, qui est vraiment le dernier village. Donc vous avez pu faire un arc de cercle de 100 km pour un lac qui fait, qu'est-ce qu'il peut faire, 130 km² peut-être au maximum. Gotta take a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. And I must climb. Feels like the world upon my shoulder. But through the clouds I see love shine.
Nous sommes à Panarachel.
Panarachel, oui, où on ressent justement ce côté impressionnant du lac, parce que moi je le compare à vous savez, les lacs qui sont créés de toutes pièces avec un barrage. Ben, c'est un peu la même chose. Ce lac est à 1540 mètres d'altitude, si on veut être très précis, mais il peut avoir 42, comme il a eu 1490.
C'est-à-dire qu'il peut bouger.
Il varie sur une trentaine d'années. Alors, il suffit d'un gros orage, et puis d'un seul coup, il monte d'un mètre, parce qu'il n'a pas d'issue. C'est ça qui est curieux. C'est-à-dire que le dernier volcan qui a bouché la dernière sortie, c'est le volcan Atitlan. C'est juste avant l'arrivée des Espagnols, là, dans les années 1500. Il y a eu une éruption absolument incroyable. Et finalement, ça a fermé carrément le débouché qui descendait sur le Pacifique, qui se trouvait à la hauteur de San Lucas. Et en l'occurrence, maintenant, il n'y a que des resurgences du côté Pacifique. Donc l'écoulement est un écoulement qui est caché, qui est carrément en profondeur, comme si, d'ailleurs on essaie de l'étudier, c'est très compliqué, sur un lac aussi profond, c'est difficile de mettre du liquide coloré, etc.
Mais plus de 400 mètres.
Hein, comment, oui, ça, justement. Donc c'est très difficile de savoir où sont les resurgences et comment elles arrivent en source du côté Pacifique, parce que c'est vraiment comme si vous aviez mis un barrage au bout avec ces trois fabuleux volcans qu'on a évoqués la dernière fois, le Tolimán, le San Pedro et puis l'Atitlán. Et finalement, cette fermeture qui s'est produite dans les années 1500 l'a fait monter d'un coup. C'est-à-dire qu'il y avait un écoulement, puis tout à coup, il n'y en a plus. Donc obligatoirement, les villages qui se sont établis au moment de l'époque espagnole sont des villages qui sont peut-être aussi impressionnants que tout ce qui existait avant. Il y avait toujours autant d'habitants. D'ailleurs, la répartition est assez propre aux différentes ethnies du lieu. C'est-à-dire que vous avez naturellement, d'un côté, sur les rives, les Tsuturil, qui sont carrément au sud, dans la région de San Lucas, de Santiago Atitlán. Et puis, vous avez les Cacchiquel, qui sont au nord, au nord-est, carrément. Et puis, vous avez encore ces Quiché, qu'on a déjà évoqués, qui se trouvent carrément à l'opposé, c'est-à-dire au nord-ouest. Alors, ce qui est intéressant entre le côté nord-est, là où vous avez les Cacchiquel, et où nous sommes, dans la région de Panarachel, c'est que quand on voit leur façon de vivre et de survivre grâce au lac, on a parlé de pêche. Hein. Bien sûr, il y a toutes sortes de poissons, des poissons locaux, comme on les a dans toute l'Amérique centrale, mais par exemple, la carpe est venue d'Allemagne. Ben voilà, un Allemand qui vous amène une carpe, et pouf, il la pose dans le lac. Il y a d'ailleurs une petite bestiole très intéressante qui est absolument délicieuse et qui est servie sur des roseaux. On les sert en grappe et puis on les les attache avec des roseaux, on les vend comme ça, ce sont des petits crabes, des petits crabes d'eau douce qui sont absolument délicieux. Puis il y a des animaux curieux, il y a des oiseaux très curieux, il y a le poc-poc par exemple qui est un espèce de canard qui est, je crois qu'il y en a encore, oui, il y en a encore quelques douzaines qui vivent sur une petite roselière qu'on protège au centre du lac, enfin près de la région de Santiago. Il y a toutes sortes d'oiseaux qui sont maintenant protégés et il y en a quelques migrateurs aussi, enfin les ornithologues se régalent sur les rives du lac Atitlan. Et si je parlais de nature, eh bien, je vous dirais qu'il faut comprendre aussi comment a fonctionné sur le plan ethnique cette région. Il y a eu ces trois grosses populations qui étaient de petits royaumes guerriers et qui se sont bagarrés un peu tout le temps. C'était tous des tribus mayas finalement. Et quand Pedro de Alvarado est arrivé, eh bien, lui, il a essayé de profiter de tout ce petit monde. Quand il a fait irruption, il a d'abord réussi à les attraper les uns après les autres. C'est-à-dire que les Cachiquels ont participé à la conquête des Tsutourils avant d'être même absorbés. Et c'est ainsi que finalement la répartition est restée comme Pedro de Alvarado l'a laissé derrière lui. Et tous ces villages qui sont autour du lac, de Panarachel à San Lucas par exemple, eh bien, ils ont gardé cette originalité qui correspondait à l'époque précolombienne. Ils ont été christianisés bien sûr, mais on le voit par exemple dans leur façon de jouer avec la terre. Ils utilisent les vergers qui sont un peu plus hispaniques, hein. Il y a quelques nouveautés dans les fruits et les légumes, mais en fait on retrouve leur haricot, les tomates, la production artisanale, et puis surtout cette religion dont on va parler, parce que c'est quelque chose d'assez fabuleux de voir à quel point le syncrétisme est encore parfait dans ces ethnies. On ne s'en rend pas compte parce qu'il y a une église souvent au milieu du village, mais il y a une évolution qui est assez folle, et puis il y a eu des changements qui se sont produits au cours des dernières années. La première chose qui est très forte au Guatemala, c'est la grande nouveauté, c'est la scolarisation tout simplement qui oblige à apprendre l'espagnol. Et puis après ça, je vous dirais qu'il y a aussi le fait qu'il y a de plus en plus, et il y a toujours eu au cours de ces, surtout depuis le début du siècle, le moment où spécialement les Allemands se sont établis sur la côte pacifique pour planter le café, la canne à sucre, eh bien il y a d'énormes migrations. C'est-à-dire ces Indiens vont pendant plusieurs semaines, plusieurs mois travailler sur la côte et ils rentrent ensuite dans leur communauté. Hein. Ils passent carrément de 1500 à zéro et là, obligatoirement, ils doivent communiquer en espagnol quand ce n'est pas dans une autre langue. Là, je plaisante un peu, mais les travaux agricoles à l'extérieur ont vraiment changé la physionomie. Puis un autre phénomène qui est assez centra-américain, mais qui est surtout très guatémaltèque, on le voit à toute occasion dans les casernes. Il y en a une très très drôle quand on arrive sur le lac Atitlan. Les gens s'arrêtent volontiers pour prendre une photo. Et ils ont fait l'entrée de la caserne avec deux bottes géantes. Mais vous savez, un peu comme les schtroumpfs, hein, avec un casque posé par-dessus, mais ça fait carrément 10 mètres de haut. Hein. C'est du carton-pâte, comme ça c'est assez amusant. Mais je voulais dire par là que le service militaire qui oblige l'Indien à servir pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, a aussi transformé complètement sa culture et l'oblige maintenant à s'hispaniser. Mais vous allez voir que derrière tout cela, même en espagnol, on peut encore être maya. How many times have you seen the papers apportion the blame? Who gets to say? Who gets the work and who gets to play? I was always told at school everybody should get the same. You've been told, if you don't ask, you don't get. How many lads have taken your money? Your mother said you should bet. Who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. We'll be right back.
Ça fait 15 jours hein, qu'on est du côté du lac Atitlan.
Ah oui, on pourrait rester beaucoup plus longtemps.
C'est possible de faire le tour du lac.
Oui, alors j'évoquais les kilométrages tout à l'heure, vous rappelez, 50 km jusqu'à San Lucas, 100 km jusqu'à San Pablo, 60 et quelques jusqu'à Santiago. C'est un arc de cercle, hein. Vous partez sur la gauche depuis Panarachel et puis là vous êtes au 17e kilomètre parce que je prends toujours le point de départ de la Panaméricaine, hein, et en tournant comme ça. Moi je me rappelle, il y a une route qui descend, qui est assez difficile, qui descend sur le côté pacifique là, entre les volcans du côté de San Lucas. C'est le seul débouché sur le Pacifique pour arriver sur le lac depuis la côte. Et c'est une route assez extraordinaire. Et je me rappelle l'avoir faite en fin de journée. Et bon, il y a une heure privilégiée. Vous savez, quand vous êtes dans le climat tropicaux, dès que le jour tombe, 6h, 6h30, on a l'impression qu'en même temps que la nuit, il y a une espèce de chape de petites bestioles qui descend, les moustiques en l'occurrence. Alors, c'était une soirée absolument délicieuse avec un climat extraordinaire. Il faisait très chaud. On était dans un bus et puis finalement, on n'a pas envie d'être derrière une vitre. Alors, on se dit, tiens, pourquoi est-ce que pendant qu'on roule comme ça, 30 à l'heure, on risque pas grand chose. Alors, vous passez d'abord la tête par l'extérieur, ensuite les deux bras, ensuite vous mettez les deux pieds sur le bord de la fenêtre et vous vous retrouvez carrément sur le bus avec les bagages. Et puis vous vous allongez. Alors bon, vous fermez les yeux de temps en temps parce que vous mangez des moustiques autant par la bouche que par les oreilles. Et parce que là, il y en a des myriades. Hein. C'est même pas des moustiques, ce sont des petits moucherons comme ça qui traînent comme ça le soir, juste à l'heure où le soleil tombe. Et puis ensuite, alors il y a quelque chose d'absolument miraculeux. Vous pouvez vous mettre à plat ventre ou sur le dos, c'est complètement égal. Vous êtes secoué de toute façon. Et il y a cette installation du ciel. C'est-à-dire, tout à coup, vous avez cette myriade d'étoiles à partir de Vénus, au moment où les couleurs changent et qu'on arrive dans ce bleu. Il y a un bleu qui tourne vraiment au bleu marin, ça tourne ensuite au violet et le noir s'installe. Et tout à coup, on a l'impression que tout scintille. Et là, vous grimpez, vous passez des palmiers, de la chaleur, des dernières cannes à sucre. Et puis tout à coup, vous sentez l'altitude, je reprends l'odeur du pin qui arrive comme ça, les dernières forêts, San Lucas. Et puis, vous longez ces falaises, c'est-à-dire cet arrondi. Quand vous êtes au nord du lac, monte carrément, il y a des passages à 500 mètres en dessus du lac. Hein, donc on domine absolument tout. Et là, même en pleine nuit, avec la lune qui commence à se lever, c'est vraiment un coup d'œil absolument fantastique. Alors il y a un autre endroit qui pour moi reste déterminant. Bon, c'est un peu sur un... Quand on voyage comme ça, un peu sac au dos, ou qu'on prend du temps, parce que le lac Atitlan, c'est vraiment le lieu de villégiature. On a envie de se poser à quelque part, on vit chez l'habitant, on découvre la petite boutique, la personne sympa. Et là, je me trouvais en marge de San Lucas, c'est un quartier de San Lucas qui est vraiment sur le bord du lac. Toutes les maisons sont en bambou, comme ça. On a une impression de village lacustre, vraiment comme on aurait pu vivre à Auvergnier, je ne sais où, long du lac de Neuchâtel, il y a quelques millénaires. Et puis, là, on m'a invité à faire une marche. Et on m'a demandé de mettre de bonnes chaussures, on m'a demandé de prendre un peu de réserve, et puis juste avant de partir, on me dit est-ce que tu as un sac de couchage ou éventuellement une doudoune. Et j'ai dit bon, ben, on a toujours ça quand on vit dans ces pays, parce que tout à coup on se retrouve à 3000 mètres, et en l'occurrence, je ne m'imaginais pas que quelques heures après j'étais où j'allais me trouver à 3000 mètres.
Une petite balade du côté des Balkans.
Ah oui, on était monté jusqu'au sommet du Toliman et on avait bivouaqué. Et c'est exactement comme tout à l'heure sur mon bus, c'est-à-dire qu'on est arrivé de nuit finalement, et au sommet, on a cherché un lieu simplement pour se poser. Et là, bon, la nuit est déjà longue, hein, parce qu'on a un sac à dos, donc on a quelque chose à boire dedans, et éventuellement un peu à manger, on fait un feu, on passe une véritable veillée, et on finit par s'endormir à partir de 2-3 heures du matin, et là on est vraiment éveillé par la création du monde. Quand on est à 3000 mètres et qu'on domine à la fois le Pacifique et en même temps ce lac qui est en dessous de vous, et que l'aube apparaît, et que les premières lueurs apparaissent, je sais pas, non seulement on est à 3000, mais on décolle complètement. C'est vraiment un des plus beaux coups d'œil que j'ai vécu en Amérique centrale. Il y a beaucoup de volcans, il y a beaucoup de sommets qui m'ont fait rêver, il y a beaucoup de paysages qui m'ont permis d'avoir ce genre de sensation. Dans les coups de Chomatanes, quand on monte carrément à 3005, presque 4000, et qu'on a des paysages à 120 km devant soi, avec tous ces petits champs comme ça qui commencent à s'éclairer, c'est vrai que ce sont des moments d'émotion extrêmement intenses. Et le Toliman, autant que l'Atitlan, on peut grimper très facilement. Il y en a un autre pour les touristes un peu moins alpinistes ou vulcanologues, c'est le Cerro de Oro, Le Cerro de Oro, c'est une espèce de petit mont parfait qui est posé devant les trois autres, juste au bord du lac, juste avant d'arriver à Santiago Atitlán. Et puis, on a envie de le connaître un peu plus parce que les pêcheurs Cachiquel et Tsuturil, là, c'est un peu la frontière, ont toujours ces petites chaumières de bambou. Les femmes portent un huipil avec des verticales, vraiment, vous savez, le côté pourpre. Hein, on a l'impression de trouver vraiment la pureté de ces rouges avec des rayures blanches absolument extraordinaires. Ça, c'est un costume qui provient d'une communauté qui est proche, qui s'appelle Pasitia. Vous êtes au pied de ce volcan. Il fait quand même 1860 mètres, donc il monte à 400 mètres en-dessus du lac, grosso modo. Et il y a une légende. Alors, je crois qu'on a tous envie de grimper sur ce sommet de la région de Tsuturil, parce que c'est même Tsuturil, au moment où les Espagnols sont arrivés, aurait caché dans son cratère un trésor. Et là, dans cette campagne, dans cette nature, c'est vrai qu'on y pense un peu et qu'on imagine qu'en moins d'une heure, on aura peut-être retrouvé ce que les Tsuturil ont laissé sur place. Et puis ensuite, vous arrivez à Santiago Atitlán. Alors Santiago Atitlán, pour moi, ça a été le village qui m'a fait le plus rêver aussi, parce que quand j'y suis arrivé la première fois, c'est par la piste. Et là, vous êtes un peu la surprise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de touristes du tout. Et au fil du temps, il est posé comme ça au bord de l'eau. Il y a de nouveau cette cascade de petites maisons qui montent vers une église avec un grand atrium. Et puis l'église elle-même a des marches qui sont peintes à la chaux. Et puis vous pénétrez à l'intérieur et là, vous avez une image très curieuse. Cette église est presque vide, avec un toit qui lui-même est assez sobre, avec les poutres apparentes, simplement en forme triangulaire, toute sobre. Et puis les parois de côté sont blanches. Mais sur ces parois, comme des applications, vous avez des dizaines de saints qui sont posés sur des petites appliques de bois, et chacun de ces saints porte une écharpe indienne, un costume indien. Il y a vraiment, il y a le voile même, ou je dirais une sorte de châle qui est posé sur la tête de tous ces saints et ces saintes. Et naturellement, dans le cœur même, très simple, vous avez le Saint-Jacques. On est à Santiago Atitlán, et quand on y vient le 25 juillet, c'est la grande fête de Saint-Jacques, bien sûr, qu'on retrouve sur son cheval blanc. Mais il y a d'autres fêtes qui sont impressionnantes, et particulièrement celles qui tournent autour de la Semaine Sainte, parce qu'il y a eu un personnage qui est né à Santiago, c'est Machimon, Judas Saint-Simon. Judas, c'est samedi. Look around, and what I had is gone. Now I finally found what I've been missing. The road I travel is so clear. Since you came into my life, you came into my life, and you're the star.
Above the storm, I wanna ride you.
On s'est arrêté au samedi tout à l'heure, Maurice.
Oui, au samedi saint, oui.
Samedi saint, quel rapport entre Judas et...
Et Saint-Jacques.
Et Saint-Jacques.
Ben, Saint-Jacques, c'est une fête qui a lieu le 25 juillet, et puis Judas, c'est une fête qui a lieu pendant la semaine sainte. Mm-hmm. Je veux dire par là que cette église que j'ai ponctuée tout à l'heure avec de nombreux saints avait à gauche, en rentrant, avant les années 50, un saint assez curieux et qui pour nous est complètement indéfinissable. Je m'explique. On l'appelle sur place Mashimon. Mash, c'est la contraction de Judas en maya. Et Mash, ça veut aussi dire singe. Hein. Il y a quelque chose d'assez curieux. C'est un mélange qu'on a de la peine sur le plan sémantique à comprendre, mais ça finit bien par Simon, qui veut dire Simon. Alors, l'idée, c'est que finalement, ce saint devait représenter l'idée même de ce qu'était Judas. Judas par rapport à l'histoire biblique que l'Indien a entendue au XVIe siècle. Or, il devait exister une idole précolombienne. On le sait parce que c'est un saint qui est recouvert d'un masque de bois. Et je vous avoue, il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de voir que ces masques changeaient. Ça, j'avais déjà remarqué au cours des années, parce que c'est une divinité qui existe maintenant et qui vit dans une hutte et qui change de hutte à chaque semaine sainte, justement. Et en l'occurrence, c'est une confrérie qui s'en occupe. Et j'avais remarqué que son côté ridé, comme ça, un peu curieux, ses petits yeux bien marqués, son trou pour planter son cigare dans la bouche du masque, changeait un peu d'expression. Et il y en a même un qui se trouve au Musée de l'Homme à Paris et qui avait été volé au siècle dernier. Et en l'occurrence, j'ai su maintenant par le dernier confrère qui est devenu un ami parce que son père me connaissait déjà bien et qu'il était lui-même confrère, c'est-à-dire qu'on finit par passer de génération en génération et on finit par être amis avec ces gens-là. Et ils ont aujourd'hui une grande difficulté, c'est qu'ils ont des concurrents. C'est-à-dire qu'il n'y a plus seulement que des saints à Santiago Atitlán, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de protestants. Je ne veux pas toucher le problème religieux, mais c'est quand même impressionnant de savoir que j'ai connu ce village il y a une vingtaine d'années avec une seule église bien catholique, bien païenne en même temps à cause de ce syncrétisme indigène, et qu'aujourd'hui, il y en a 17, et je pense que si j'éternue, il y en aura déjà 19 la prochaine fois. C'est-à-dire 19 églises différentes pour un bourg de 3500 habitants. C'est absolument impressionnant. Ça veut dire qu'il y a 20 possibilités religieuses dans un seul village, à coup de pot de vin, à coup d'argent, à coup de...
Je vais vous demander pourquoi, oui, même, d'accord.
On peut même prétendre, enfin, il y a des chiffres qui sont donnés aujourd'hui en prétendant que le second revenu national du Guatemala serait donné par les oboles des sectes protestantes américaines qui envahissent petit à petit le pays. C'est une nouvelle invasion. Je le dis très crûment, mais là, c'est plus la carte postale, c'est carrément des réalités qui font que tout à coup, on fait éclater une communauté. Vous imaginez que dans une seule famille, vous pouvez avoir 5 religions différentes et qu'on se mange le nez. Par exemple, aujourd'hui, la dernière fois où je suis arrivé à Santiago Atitlán, on avait l'intention d'aller voir Mashimon, d'aller voir l'église, et c'était un dimanche. Il y avait un tel brouhaha, un tel côté moderne dans la façon de créer le culte dans la nouvelle église qui se trouve tout près du port où on débarque maintenant en bateau, puisqu'on vient plus par la piste, on prend le bateau, on traverse, on arrive sur le débarcadère, on est envahi par les petits vendeurs, les boutiques se sont installées dans la rue principale, tout a évolué. Et là, il y a une église de béton monstrueuse, et à l'intérieur, il y avait, je sais pas, 200-300 personnes comme cela, à l'américaine, en tapant des mains, en chantant, en faisant des prêches, qui ressemblent beaucoup plus à ce qu'on voit dans les meilleures villes des États-Unis, avec ce côté très chanté, très, très actif, je dirais presque très violent, parce qu'il y a aussi cette façon de hurler, non pas l'évangile, mais des formes presque... Il y a un côté loi, il y a un côté obligation, il y a un côté pression incontestable, un endoctrinement qui est extrêmement fort. Et puis, juste à côté, vous en avez une autre, et puis un peu plus loin, il y en a encore une autre. Elles ont toutes le culte à la même heure. Et c'est vraiment, c'est tout juste si les haut-parleurs sont pas venus sur les toits pour se faire de la concurrence et le dire. Et puis, il y a cette église qui reste conservatrice, si vous voulez, qui est très indienne, parce que la différence entre ce côté protestant et le côté catholique, c'est que les saintes, tout à l'heure, permettent à l'Indien de garder ses anciennes coutumes. Alors, je reviens à l'histoire d'avant les années 50. À l'entrée à gauche, il y avait cet étrange saint qui, lui, portait masque, il a des grosses chaussures superbes en cuir, il porte le pantalon, il est habillé un peu comme nous, c'est un métis. Il a des milliers de foulards qui lui sont offerts, il a des tonnes d'habits qui traînent dans sa maison aujourd'hui. Alors, il était simplement posé comme ça à l'entrée. Et les Indiens petit à petit, ont délaissé tous les autres saints de l'Église en faveur de ce Machimon qu'on venait prier avec des sorciers. Il y a vraiment un rituel extrêmement fort. Il y a eu un conflit énorme au début des années 50. Il y a eu des coups de feu, il y a eu un problème qui était jusqu'à la présidence du Guatemala. Et on a exclu finalement ce saint de l'Église. On a construit une chapelle à l'extérieur qui se trouve sur la place principale. Elle est utilisée uniquement le samedi saint et pendant la semaine sainte. Et maintenant, Machimon est obligé de vivre dans la communauté même, c'est-à-dire dans une hutte qui change à chaque semaine sainte. Alors c'est une longue histoire, mais elle est fascinante parce que la légende prétend que ce bois qui était sculpté raconte une histoire très drôle. C'était les pêcheurs du lac, enfin les pêcheurs de Santiago, qui avaient demandé à un jeune homme, c'est une des légendes, de rester dans le village pendant qu'ils étaient loin. On partait à la pêche et puis tous les hommes abandonnaient leurs femmes. Et ce jeune homme, ce jeune éphèbe indien, était là pour surveiller ses femmes. Et on prétend qu'il y a eu une petite erreur dans l'histoire et que finalement, c'est un peu à cause de lui qu'il a joué ce rôle du Judas, celui qui trompe, si vous voulez. Alors, ce qui est fabuleux dans l'idée de Judas, c'est quand vous en parlez à un Indien, il vous dit, mais écoutez, Judas est beaucoup mieux que Jésus. Judas est beaucoup mieux que tous les saints. Judas est le seul qui soit humain. Judas a fait exactement ce qu'il devait faire par rapport à l'idée maya, à l'idée précolombienne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord dénoncé, trompé, vendu et permis finalement à un homme de devenir un dieu. C'est grâce à lui que Jésus est devenu dieu. C'est grâce à lui que Jésus a été crucifié. Donc pour eux, c'est l'homme parfait qui par son erreur crée la divinité et qui par son suicide du samedi se rachète complètement puisqu'il a choisi son heure, le comment et le pourquoi. Donc il est parfait. C'est le plus beau, le meilleur de tous les sacrifiés indiens.
Softly whispering I love you, echoes of your voice are calling still from my dreams, softening the chill of the breeze through my window. I can see the moon glow, painting silver shadows on a rose-colored land. A world that we walk hand in hand in a day of gold, covered by the glow of new love. I can feel your warm face ever close to mine, and the scent of you invades the cold evening air. I can close my eyes and you're there. You're in my arms still. Oh, I know your soft kiss turning into music every beat of my heart. When I you close to my heart and I hear your voice whispering I love you. I can feel your warm face ever close to my lips, and the scent of you invades a cool turning into music every beat of my heart. And I hear your voice whispering I love you. Ooh, I know I need you.
Alors Machimon, vous comprenez bien que c'est en fait, quelle que soit la légende, d'ailleurs on en parlera peut-être une fois de façon plus complète, mais c'est le saint par excellence parce que son rachat personnel, c'est à la fois la vente de la divinité, l'achat-vente et le contrat de Judas qui finit par le suicide, c'est le rachat parfait. Donc il est lui-même capable de tout faire pour les hommes, c'est-à-dire qu'il connaît exactement les voies les plus secrètes de la sorcellerie pour obtenir un résultat divin. Et je ne sais pas si je me fais comprendre, mais ethnographiquement parlant, c'est fascinant de voir à quel point ce personnage va devenir le cœur même de tout ce que l'Indien imagine pouvoir mettre dans une image pseudo-chrétienne. Et il est complètement vivant. C'est un personnage qui fait partie de la communauté. Il a peut-être plus de difficultés maintenant par rapport à toutes ces églises concurrentes, mais quand on vit quelques jours, quelques heures, quelques semaines en compagnie de Machimon, quand on partage la Semaine Sainte, où on va jusque sur la côte à 200 km pour chercher des fruits, pour faire une procession monstrueuse, quand le mercredi on lave tous ses habits de manière secrète dans le lac, mais des tonnes d'habits, hein, carrément, je veux dire, il a des coffres, il est accompagné par le Saint-Sépulcre qui se trouve également dans la même hutte avec le Christ dans son cercueil de verre, il y a des croix étranges, il y a une ambiance absolument folle avec cette odeur d'encens, cette surchauffe dans une maison complètement fermée, on crée un faux plafond parce que la nuit il dort comme un homme sur un matelas, il a ses armoires et ses coffres également au premier étage, et puis il descend par son échelle, on le porte doucement, on le pose devant une table, les confrères sont là toute la journée, ils vont vivre pendant une année au service de ce saint, et des milliers d'Indiens vont venir tout au courant de la journée, tout au courant de la nuit, pour prier avec des sorciers, il peut tout faire. Il peut guérir, il peut vous aider. Moi, on m'a fait le coup de l'avion qui devait voler comme il faut. Enfin, on a pris l'encensoir, on a encensé tous les touristes et les gens qui étaient avec moi. Je dirais que, la seule chose qui est impressionnante chez l'Indien Maya, chez le Guatémaltèque, c'est cette façon de concevoir le temps. Il a le temps. Imaginez-vous que tout à coup, par une charge comme la vôtre,
animateur
de radio ou comme moi, tout à coup, on doit donner une année complète à la communauté pour monter en grade et en prestige. Et là, on va accueillir chez soi cette divinité pendant une année, on va mettre tout le décor en place, on va monter la boutique à l'extérieur pour les quelques achats qui vont correspondre aux pèlerins, aux gens qui vont venir. Il y a des gens qui font 100 km pour venir le voir et prier devant lui et qui refont plusieurs fois le voyage, qui viennent avec des sorciers, qui le sur place ou qu'ils l'emmènent avec eux. Et il est vivant au point que lorsqu'il descend de son échelle, il s'installe, il est debout, il n'a pas de bras, il a tous ses foulards autour de lui, il a souvent 4, 5, 6 chapeaux sur la tête, les uns sur les autres, ce sont les offrandes, ce sont les cadeaux, et ses belles chaussures bien cirées, parfois noires, parfois fauves, ça dépend du jour et de la visite. Il a ce côté un peu pouponné, et il a certainement... On ne connaît pas bien son intérieur, parce qu'on le... On le lave et on s'en occupe.
Il est fait en quoi ?
Eh bien, c'est certainement un mannequin de bois avec certainement une pierre ou quelque chose de sacré à l'intérieur. Il n'y a que les chefs de confrérie et deux personnes qui s'en occupent chaque année et qui lui enlèvent ses vêtements complètement. Et on se cache derrière des pétatés, c'est-à-dire des nattes. Et on crée une sorte de petit enclos à l'intérieur de la hutte. Même si tout le monde est présent, personne n'a le droit de savoir ce qui se passe à l'intérieur. On essaie de sacraliser ça au maximum. Alors, il est debout, il fume, il boit. C'est-à-dire qu'au moment où vous offrez des bières aux confrères, et puis tout à coup, c'est à lui qu'on va offrir la première goutte. Alors on le prend comme un grand bébé tout droit et tout rigide. On le penche en arrière, on lui enlève son cigare ou sa cigarette parce qu'elle continue à brûler. Le cigare s'arrête tout seul. Et puis on lui met carrément la bière dans la bouche, on lui verse, on prend une petite serviette symbolique et puis on le nettoie. Et puis tout ça va à l'intérieur dans une outre, très certainement. Quand il y a tout un service comme ça nocturne qu'on ignore, il y a un service qui se fait en dehors des visites. C'est un personnage qui est posé sur la natte sacrée, sur le pop, ce symbole du pouvoir. Là, en toute simplicité, au milieu de sa hutte, dans la fumée, de l'encens, des bougies. Un climat qui fait penser qu'on peut être à la fois précolombien et pseudo-chrétien. Et Santiago Atitlan, on y reviendra, parce que c'est peut-être un des endroits les plus forts par rapport à ce mélange étrange. Est-ce qu'on est avant Pedro de Alvarado? Est-ce qu'on est déjà après? Il est des fois difficile de faire la différence, mais l'ambiance y est et on est toujours au bord du lac Atitlan. Attention, c'est déjà l'heure du Socomil, il faudra peut-être songer à rentrer ou alors dormir sur place, c'est pas plus mal de rester à Santiago.
Et on se retrouve dimanche prochain, entre 12h et 13h.